On est de retour dans Trudeau Landry comme à chaque jour. À cette heure-ci, on a le bilan quotidien qui vient d'être dévoilé par les autorités de santé publique. 613 nouveaux cas de COVID-19. C'est en deçà de ce qu'il y avait dans les derniers jours. On était plus autour du 800, mais bon, on le sait, le lundi, ce sont les tests, les résultats du dimanche, donc toujours un peu plus faibles. Pour ce qui est des décès, on voit une tendance à la baisse, Jérôme. Souviens-toi, il y a quelques semaines, on disait hey, c'est long avant que la baisse des hospitalisations se reflète dans le nombre de décès. Là, on le voit que ça diminue tranquillement. Évidemment, on voudrait que ce soit zéro, mais 6 décès. Et pour ce qui est des hospitalisations, ça fait un petit bout qu'on n'avait pas vu une hausse, 11 hospitalisations de plus. Mais encore là, quand on parle de tendance, on se rend compte que c'est souvent du 5, 6, 7 jours de baisse. Un petit soubresaut une journée, par la suite, on continue la tendance vers la baisse. Et je vous rappelle que pour l'instant, on ne sait pas encore à quel moment le premier ministre François Legault va faire le point au courant de la semaine, surtout afin de savoir ce qui va se passer après la semaine de relâche. Hier après-midi, il y avait un discours fort attendu. Fort attendu. Je ne sais pas si toi, tu as écouté ça. Moi, je me suis branché YouTube. Donald Trump, qui prenait la parole devant la conférence d'action politique des conservateurs, CPAC. Et je l'ai écouté pendant 40 minutes. Puis à un moment donné, au bout de 40 minutes, je dis non, là, je vais aller faire à manger. Là, j'en avais eu assez parce qu'il n'y avait rien de différent de ce qu'on a été habitué là, dans un discours de Donald
Trump. Même radotage que depuis longtemps, mais c'est le bout où il dit qu'il veut encore battre le démocrate.
Ben tiens, on peut peut-être l'entendre avant d'aller rejoindre Raphaël Jacob.
This alone should be reason enough for Democrats to suffer withering losses in the midterms and to lose the White House decisively 4 years from now. But who knows? Who knows? I may even decide to beat them for a third time, okay?
Pour une troisième fois. Pour une troisième fois.
Ils ont battu en 2016, ça fait une fois.
Ça fait une.
Ensuite, une.
Il a perdu pas d'autre fois, en 2000. Ah, attends. On va aller rejoindre Raphaël Jacob de la chaire Raoul Dandurand. Salut, Raphaël.
Salut, messieurs.
En même temps, tu sais, doit-on être surpris d'entendre Donald Trump dire ça?
Ben, je veux dire, ce qui m'a surpris, ça a été la réaction de Jérôme quand tu lui as demandé s'il avait regardé le discours. J'ai senti une absence d'enthousiasme total.
Ben, écoute,
genre, ouais, j'ai regardé, ouf.
Il faisait trop beau hier pour que je regarde ça en direct, mais j'ai regardé les résumés quand même. Parce qu'on, tu sais, veut pas, se faisait un bout qu'on n'avait pas eu de nouvelles de Donald Trump, puis on le sait qu'il va préparer un retour. Donc, c'est quand même intéressant.
Ben, écoute, ça ressemble à ça, là. Quand tu regardes le discours d'hier, tu sais, premièrement, c'est un discours fleuve, là. Joe, tu dis que tu l'as coupé après 40 minutes. Si t'avais de la misère à endurer ça pendant 40 minutes, je te garantis que tu aurais trouvé ça pire dans la deuxième moitié. Pas juste parce que c'était long, mais c'est parce qu'il a vraiment commencé à déraper dans la deuxième moitié. Écoute, il a passé au minimum une quinzaine, voire une vingtaine de minutes sur la question de, entre guillemets, la fraude électorale, justement. Là, t'sais. Tant qu'il se maintenait à, disons, parler du présent puis de l'avenir, ce que Biden faisait de pas correct selon lui, de ce que les États-Unis devraient faire en regardant en avant, bon, c'était une chose. Mais à peu près, quand toute la deuxième moitié ou à peu près de son discours, c'était juste de l'amertume puis un retour sur cette espèce de délire-là qui s'est fait voler. Que, tu sais, fait que vous avez fait jouer l'extrait qui était probablement le plus, je le mets vraiment en guillemets, là, le plus léger, le plus comique quand il a dit qu'il pourrait battre les démocrates une troisième fois. Mais pour le reste, c'était rien de léger. On était dans l'eau et pas à peu près. Et ce qui était remarquable, c'est que la foule, non seulement l'accueillait évidemment à bras grands ouverts, mais certains des passages qui ont reçu le plus grand, je sais pas, nombre, mais disons le volume d'applaudissements le plus nourri, c'était justement quand il revenait sur les questions de fraude électorale. Fait que, tu sais, imaginez ce type-là revient, comme il semble vouloir le faire, là, dans l'arène politique active. Disons qu'il se lance pour 2024, qu'il le fait évidemment avant 2024, puis on en a pour un an et demi, deux ans de campagne comme ça. Après celle qu'on vient de voir, tu sais, il y a des questions qui se posent.
Ben c'est ça, la question, c'est est-ce que ça va avoir de l'attraction? Parce que la réalité, Raph et Jonathan, c'est que, tu sais, l'élection de 2020, elle n'a pas été si serrée que ça. Là. Je pense que c'est une victoire de Biden assez claire, assez évidente. Mais là, ces idées-là, pendant 4 ans, est-ce qu'il peut étirer la sauce encore pendant 4 ans? Là, il y a les midterms qui s'en viennent. Bon, il peut peut-être jouer cette carte-là un peu encore, mais ça va-tu, c'est-tu possible techniquement que pendant 4 ans, il y ait une traction à ces idées-là encore? Là?
Sais-tu quoi? Honnêtement, en ce qui me concerne, c'est la plus grosse question. C'est la question à laquelle j'ai le plus de difficultés à répondre. Parce que au-delà de ces idées, je pense que ces idées peuvent avoir d'attraction pour 4 ans, pour 8 ans, pour 12 ans. C'est pas tant ça. C'est pas le programme politique qu'il propose qui va nécessairement faire en sorte qu'il va avoir de la misère à garder l'attraction. La plus grosse difficulté, c'est que là, présentement, évidemment, il n'y a plus de poste élu. C'est plus le président. Quand tu es président des États-Unis, veut pas, tu vas t'attirer de la couverture médiatique juste en te levant le matin. Là, c'est plus ça. Et contrairement, par exemple, au système parlementaire canadien où il y a un chef d'opposition qui est quand même un élu d'habitude, il n'est pas élu à quoi que ce soit. Donc, il veut jouer ce rôle de chef de l'opposition-là. Encore faut-il que les médias lui permettent, si on veut, de le faire, en lui donnant de la couverture. Donc, non seulement il n'y a plus de poste élu, mais doit-on le rappeler, je sais qu'on s'en avait parlé dans les dernières semaines, mais il n'a plus non plus de compte de médias sociaux. Oui. Ça, depuis qu'il est sur la scène publique, la scène politique, c'est complètement inédit. Être pris sans cette espèce d'énorme porte-voix, si on veut, qu'étaient ses comptes, à commencer évidemment par Twitter. Donc, la question pour moi, c'est ça, c'est de savoir, là, évidemment, il y a eu une tribune extraordinaire qui est cette grand-messe conservatrice-là, mais tu sais, ça a lieu une fois par année. Est-ce qu'il va y avoir d'autres occasions de la sorte pour donner des discours de la sorte? Oui. Mais est-ce qu'il va y en avoir à chaque jour? Assurément pas. Et est-ce que rendu, je sais pas, dans 2 mois, dans 6 mois, dans 9 mois, est-ce que les grands médias américains vont continuer à parler de lui autant qu'on a parlé de lui hier? Je sais pas. Et l'autre question qui, encore une fois, à laquelle je prétends pas avoir de réponse puis qui est sous-jacente à ça, c'est si justement il a beaucoup, beaucoup moins d'exposition médiatique qu'il en avait, est-ce qu'il est capable de rester aussi dominant au sein du Parti républicain? Encore une fois, dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans. Je sais pas. C'est le pari que lui semble vouloir faire. Est-ce que c'est un pari qui peut gagner? C'est loin d'être sûr. En même temps, ce que je dirais, c'est ceci. Hier, en marge de la conférence, là, qui s'est tiré sur toute la fin de semaine, ça a duré à peu près 3 jours, on a fait une espèce de sondage. Ils font ça à toutes les années à CPAC, à cette conférence-là, à savoir parmi les gens qui étaient là et dans certains cas, les gens qui auraient pu être là, mais qui n'ont pas été là, comme par exemple le sénateur Marco Rubio. Si vous aviez à choisir aujourd'hui un candidat présidentiel pour la prochaine élection, qui est-ce que ce serait? Je vous laisse deviner les résultats. Hier, alors qu'on avait des dizaines de choix potentiels, il y en avait un qui allait chercher une majorité absolue d'appui, 55%. C'était Donald Trump. Donc, on va voir si ça se maintient, mais après un mois et demi, ça se maintient.
D'ailleurs, faut que je vous dise mon moment préféré de son discours, de ce que j'ai écouté. Jérôme, un moment donné, je sais pas si tu as vu ça dans les résumés que tu as vus, mais un moment donné, la foule se met à scander « We love you! We love you! » Et là, Trump interrompt son discours puis il dit « Ça, We Love You, que les gens crient, là, c'est apparu pendant notre tournée de discours un moment donné, puis il dit, j'aime bien gros Ronald Reagan, t'sais, il a été très apprécié, puis il dit, là, on s'est mis à demander à des gens qui connaissent ça, là, est-ce que de mémoire d'homme, c'est déjà arrivé que les foules scandent We Love You à un président ou même à Reagan?
Reagan aurait honte de Trump.
Et de mémoire d'homme, c'était jamais arrivé. Tu vois, comment tu peux aller dire ça? Mais bref, un mot sur la relève. Parce que là, tu dis, bon, le sondage, les gens, les républicains disent oui, Trump, mais il y a encore quelques années devant eux. Ouais. Est-ce que ce sera pas là la clé des républicains qui veulent plus voir Donald Trump, c'est-à-dire de voir émerger des leaders républicains, puis est-ce que tu en vois? Moi, il me semble que quand on regarde l'espèce de néant qui a caractérisé la course des démocrates dans les dernières années, là, je me dis, ça se peut-tu qu'il y ait plus de talents qui émergent du côté des républicains?
Il y en a plein de talents. Regarde juste la conférence à laquelle on a assisté. Il y en avait des politiciens, des politiciennes très talentueux qui se sont exprimés, mais ils ont tellement l'air petits à côté de ce personnage plus grand que nature qui est Donald Trump. C'est un petit peu une reprise de ce qu'on avait en 2016 pendant les primaires républicaines. La première campagne de Trump où, écoute, t'avais une quinzaine de candidats républicains puis c'était pas tous des deux de pique. Il y en avait qui étaient extrêmement talentueux comme, je mentionnais Rubio tantôt, Marco Rubio, c'est un des candidats il y a 4 ans, il y a 5 ans maintenant. T'avais des gens comme Ted Cruz, comme Chris Christie. Bon, tu sais, je pourrais vous faire le line-up, mais c'était des vedettes du Parti républicain, mais en même temps, c'était des politiciens, entre guillemets, normaux, standards. C'était pas des showmen. On a eu un petit peu la même chose en fin de semaine à cette conférence-là. Donc, tu as eu des gens, par exemple, comme le gouverneur de l'État qui recevait la conférence, le gouverneur de la Floride, M. DeSantis. Il a donné un bon discours. Tu as eu Kristi Noem, un nom, je pense, avec lequel il faut vraiment se familiariser parce que, en ce qui me concerne, c'est à toute fin pratique, sûr et certain qu'elle va se présenter. C'est la gouverneure de Dakota du Sud. Donné un bon discours. Mais encore une fois, ils ont l'air, entre guillemets, tellement ordinaire par rapport à Trump. Ce nom-là, le nom de Trump était partout à la conférence, même quand c'était pas un Trump qui était sur la scène, parce qu'il y a eu lui, mais il y a eu son fils également qui s'y est adressé vendredi à la fin de la première journée. C'est comme si le nom était quand même sur les lèvres de tout le monde qui était là. Donc, le défi, effectivement, Joe, je suis d'accord avec toi, c'est dans les prochains mois, les prochaines années, puis je veux pas dire les 15 prochaines années, je veux dire les deux prochaines années. La période entre maintenant puis le lancement là, de la campagne présidentielle de 2024 qui va arriver en 2023, c'est 2 ans, ça. C'est pas si long que ça. Le défi, donc, ça va être pour ces autres aspirants potentiels-là, s'ils sont capables de prendre suffisamment de place pour que, à la limite, si jamais Donald Trump veut effectuer un retour, il soit vu comme un candidat parmi d'autres et non pas cette espèce de tour, de monument. Puis, tu sais, je me permets d'ajouter ceci super rapidement, parce que le jeu de mots se prête à ça. Je sais pas si vous avez vu l'image circuler sur les médias sociaux jeudi soir. Ça, c'était à quelques heures de l'ouverture de la conférence où on a dévoilé une espèce de statue géante, en fait, grosseur, grandeur homme, là, plaqué or de Donald Trump. Tu sais, c'était remarquable parce que cette conférence-là, historiquement, à date d'à peu près un demi-siècle, historiquement, c'est pas une conférence qui est basée autour d'une personne ou d'un président. C'est autour d'un mouvement idéologique, du mouvement conservateur. Et là, ça s'est transformé depuis quelques années, incluant cette année, alors que Trump est même plus président, comme une espèce de culte de la personnalité autour de lui. Fait que comment est-ce que, si encore une fois, t'es un autre républicain ou une autre républicaine, est-ce que tu peux, disons, diminuer, tout au moins diminuer cette espèce d'effet que de la personnalité qui fait que Trump est plus fort, plus dominant que n'importe quelle autre figure dans ce parti-là. Je sais pas, mais c'est une question fondamentale en regardant en avant.
En 60 secondes avant qu'on se laisse, Raphaël, parlant de statut, celle du gouverneur Cuomo, de plus en plus, est en train d'être déboulonné. Est-ce qu'il va être contraint de démissionner, tu penses, éventuellement? Ou là, c'est du harcèlement sexuel, deux personnes demandent une enquête indépendante. Je me demande combien de temps il peut endurer ça avant de carrément quitter son siège. Juste tout un embarras pour les démocrates. On a beau parler des républicains, les démocrates sont dans l'embarras avec ça.
Je peux-tu juste vous dire que je suis content qu'on s'en soit parlé il y a 2 semaines, puis la semaine passée, parce que après nos discussions sont sorties non pas l'histoire, mais les histoires d'allégations d'harcèlement sexuel contre lui. Là, c'est le supplice de la goutte. Là. C'est une après l'autre après l'autre. En même temps, vous me permettrez de faire un lien avec Trump. Tu sais, tu me demandes combien de temps est-ce qu'il peut durer sans démissionner. Ben, ce qu'on voit depuis l'arrivée de Trump, ce sont des politiciens américains qui jouent la carte Trump. C'est-à-dire, on encaisse les coups, on s'excuse pas, on reste en fonction. Trump, là, doit-on le rappeler, à la fin de la campagne de 2016, justement, avec la vidéo Access Hollywood, à peu près tout le monde s'attendait à ce que soit il parte, ou évidemment, soit il perde. Puis, il s'est dit, non, je vais toffer en bon français. Puis, en guillemets, il a gagné son pari. Donc, il y a rien qui garantit que, malgré tous les scandales, maintenant qui entourent Andrew Cuomo, le gouverneur de l'État de New York, il va quitter. Il a le droit, tant qu'il n'est pas arrêté, là, il a le droit de finir son mandat, techniquement, qui se termine dans seulement 2 ans. Une autre question, puis j'imagine qu'on se laissera là-dessus, c'est de savoir si, justement, s'il refuse de quitter, et s'il y a d'autres informations encore plus incriminantes qui sortent, est-ce que les législateurs de l'État de New York le destituent? Parce que les membres du Congrès peuvent destituer un président fédéral, ben les membres d'une assemblée législative d'un État peuvent destituer un gouverneur. Donc, est-ce qu'on va se rendre là? Je sais pas, mais c'est une question qui se pose et qui semblait impensable pour bien du monde il y a à peine quelques semaines. Fait que c'est un revirement carrément spectaculaire.
On va suivre ça avec toi dans les prochaines semaines. Merci, Raphaël.
Good. Salut. Bye-bye.
L'excellent Raphaël Jacob de la chaire Raoul Dandurand. Avant qu'on aille à la pause, Nico, je vois ça aussi à la télé, là, les 70 ans et plus, la vaccination va s'élargir à ce groupe d'âge-là.
Montréal et Laval.
Montréal-Laval, bon.
Ouais. Ils peuvent déjà prendre rendez-vous.
Là. Ben c'est ça. Puis ça a été dit encore ce matin par M. Paré. Là. Je pense qu'il est en entrevue avec Paul Arcand. Oui. Je veux dire, c'est vraiment Montréal et Laval, les régions sur lesquelles on focus. Encore là, mon problème, c'est si c'est moins sérieux, si le feu est moins pris ailleurs... Pourquoi à Québec, en Mauricie et en Estrie, on est encore en zone rouge?
C'est pas un ou l'autre, ça va ensemble.
Ça va ensemble, là. Ça va ensemble. Pas que je suis jaloux des Montréalais. Si le feu est pris à Montréal, bravo, focusser la vaccination là-bas. Pourquoi on est encore en rouge à ce moment-là dans plusieurs régions au Québec? Pourquoi c'est le même
question
niveau?
Question à laquelle on n'a pas encore la réponse. Mais non. Daniel Paris disait ce matin qu'il y a des endroits plus éloignés des grands centres où ils ont déjà commencé à vacciner du monde, même dans 60aine, parce que quand tu ouvres une batch de vaccins, les fioles, il faut que tu vaccines. Fait que si t'as un nombre X de 80 ans et plus qui est inscrit cette journée-là, mais que t'as des doses de disponibles, ben c'est pour ça qu'il y en a qui ont dit, ben surprenez-vous pas qu'il y a des gens plus jeunes qui aient été vaccinés, parce que tant qu'avons des fioles d'ouvertes, pas perdre des doses, il y a des gens qui étaient pas nécessairement dans le groupe d'âge qui ont été vaccinés. Mais écoute, au moins ça s'accélère, Jérôme. Ça, c'est la bonne nouvelle.
On va y aller après la pause.
On va voir ça. OK, on s'en